où Jésus, ben, Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, je suis content qu'il ramène ce sujet-là, et où le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Et à partir de ce texte d'introduction la semaine dernière, j'ai partagé avec vous des traits de caractère d'un disciple du Seigneur. Et je suis content de ce qui s'est dit ce soir, que ce soit les chants, les témoignages, l'intervention de Christina, l'intervention de Pasteur Labbé. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Hein? Toutes les choses qui se déroulent dans une assemblée, c'est parce que c'est le Seigneur qui le dirige. Et ça tourne toujours autour du sujet qu'on a à traiter. Et ce soir, bien, ça vient rejoindre exactement les mêmes choses. Alors, c'est assez... Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, c'est pas un dieu d'hasard, c'est pas, il n'y a pas pitché rien en l'air, puis c'est tombé comme ça, comme les scientifiques le pensent. Mais il a tout planifié, tout est organisé, et toutes les réunions, ou quoi que ce soit, quand on se réunit dans le nom du Seigneur, quand on est dans sa présence, il n'y a pas d'erreur qui se fait. Le Seigneur est toujours là. Puis il y a des choses qui se passent, et puis c'est pour ça qu'on veut y rendre gloire. Alors, on va prier avant d'aller plus loin, si vous me permettez. Merci, Père, notre Dieu, pour ce temps béni que tu nous donnes, d'ouvrir ta parole. Quel privilège! Quelle liberté que tu nous donnes! Que nos cœurs, ce soir, soient réceptifs, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous encourager, que ton œuvre se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que t'importe, toi, suis-moi. Oh, c'est une grande décision, hein? C'est surtout une grande parole que le Seigneur venait d'annoncer à Pierre, et on connaît le pourquoi qu'il lui a dit ça. Et ça m'a rappelé, cet après-midi, j'étais en train de finaliser ça, et je méditais là-dessus. Et je me suis rappelé, soudainement, une chose que je ne pourrais jamais oublier, quand j'ai accepté le Seigneur, ça faisait à peine 2 semaines que j'étais sauvé, 22 ans, je sortais d'un monde de noirceur, sorti de la drogue, sorti de j'étais un oiseau de nuit, hein? Et là, je me retrouve, là, avec le Seigneur, j'y appartiens, je suis sauvé, j'ai pas de connaissances dans les Écritures, évidemment pas, mais il y a une chose que j'ai en dedans de moi, j'ai son Saint-Esprit. Et là, je demeurais chez mes parents, à l'époque, à Saint-Joachim, au pied du Cap-Tourmente, et j'aimais aller marcher au Cap-Tourmente. Et je me rappelle un matin, d'une belle journée comme hier, à peu près, là, où je suis parti seul. Et puis, j'avais été m'asseoir sur un rocher sur le bord du fleuve. Et là, j'avais eu un temps béni avec le Seigneur. Un temps que je vais me rappeler toute ma vie, jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Un temps extraordinaire, où je parlais avec le Seigneur, je chantais des choses que j'avais jamais entendues. C'est des choses qui venaient à mon cœur, avec des airs peut-être connus. Mais enfin, bref, c'était les paroles qui comptaient. Et puis, et le temps que j'avais là, la présence même du Seigneur, qui pouvait être là. Écoutez, j'avais 22 ans, j'arrivais de nulle part, et puis tout d'un coup, je me retrouve là. Puis dans mon cœur, le Seigneur mettait déjà sa joie, et j'avais lu ce texte-là quelques jours avant. « Que t'importe, toi, suis-moi. » Puis c'est exactement comme si le Seigneur me disait, « Regarde, là, tu vois d'où tu viens, oublie tout ce que c'est que tu avais, ce que tu as vécu, puis toi, suis-moi. » Mais quel temps de communion j'ai pu avoir avec le Seigneur. Et ce soir, bien, juste pour vous ramener les trois premiers traits de caractère, est-ce qu'on s'en rappelle? Je vais vous le dire. Un disciple, hein? Un disciple, premier trait de caractère, ça écoute. Pas juste entendre, mais ça écoute. Écoute dans le sens de vouloir mettre en pratique. Deuxième trait de caractère, un disciple doit être comme son maître. Troisième trait de caractère, un disciple doit préférer son maître par-dessus tout. Absolument tout, tout, tout. Ça doit être sa priorité, ça doit être notre priorité dans notre vie, parce qu'on est un disciple et on veut lui plaire. Le quatrième trait de caractère que je veux partager avec vous ce soir, dans Jean, chapitre 13. Et là, je suis content d'avoir entendu des choses que Christina et M. Labbé ont partagé avec nous. Parce que ça rejoint exactement ça. Un disciple s'identifie dans l'amour. Vous savez, vous priez pour un frère, vous priez pour un missionnaire qui est à l'autre bout du monde, ça prend de l'amour. Il faut l'aimer. Il faut déjà l'avoir sur notre cœur, puis avoir le fardeau de prier pour lui. faut aimer. Si on n'a pas l'amour pour quelqu'un, comment on peut se préoccuper de quelqu'un qui est dans le besoin, comme disait M. l'abbé? Comment est-ce qu'on peut faire? C'est absolument impossible. Jean, chapitre 13, le verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et le verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, c'est évident qu'un disciple s'identifie dans l'amour. Et si on a de l'amour les uns pour les autres, ça va refléter. Les gens vont reconnaître qu'on est un disciple du Seigneur. Et c'est là aussi, quand à un moment donné, on est à quelque part ou avec des inconvertis ou à des confrères de travail ou peu importe, les gens disent, « Il me semble que toi, tu as quelque chose de différent. Il y a quelque chose dans ta face qui... » qui m'en vient pas, non, non. « Il y a quelque chose dans ta face qui est différent. » Tu as quelque chose de spécial. Avez-vous déjà entendu ça? Non, inquiétez-vous. Oui, on a déjà entendu ça. Parce que, mais moi, je pense que c'est parce que l'amour de Christ qui est en nous reflète. Et les gens reconnaissent. Ils ne savent pas c'est quoi, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Puis il y a quelque chose de différent. Alors, la Bible dit bien, hein, à ceux-ci tous, tous pour les chrétiens, non, tout le monde, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ton amour, en tant qu'Église ici, est-ce qu'on doit s'aimer? Oui, on doit s'aimer, c'est sûr. Et on s'aime, n'est-ce pas? Enfin, quelques-uns. C'est au même départ. Non, non, mais enfin, on doit s'aimer. Parce que la Bible dit que si on est un disciple, on doit s'identifier dans l'amour et les gens doivent nous reconnaître comme étant différents. Et c'est là qu'ils vont reconnaître, à travers de nous, l'amour de Christ, comme un miroir. Hein? C'est comme un miroir. On va refléter cet amour-là. Ouais, c'est ça, il dit. À tous, et tous connaîtront que vous êtes les disciples. 1 Jean, chapitre 3. Maintenant, venez avec moi dans 1 Jean, dans l'Épître. Chapitre 3, verset 14. Le Seigneur nous dit d'aimer, mais de ne pas juste aimer en parole, mais d'aimer en action et avec vérité. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, donc c'est notre conversion, parce que nous aimons les frères. Oui. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Moi, je suis un chrétien. Je suis sauvé. Mais je ne t'aime pas en face. Mais j'ai un problème. Est-ce que ça se peut? Non. Ça ne se peut pas. Mais selon moi, c'est pas supposé de ce pouvoir. Là. Hein? Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, avec l'entraide, avec le partage, avec l'occasion d'encourager un frère, de le soutenir, un frère, une sœur, d'être auprès de lui, d'avoir une oreille pour l'écouter, pour entendre ses besoins. Et des fois, juste une petite tape sur l'épaule, une poignée de main chaleureuse, puis dire, « Sais-tu quoi, frère? Je t'aime, dans le Seigneur. » Et ça fait toute la différence, souvent, dans la vie d'une personne. Ce matin-là, ce chrétien-là peut-être être un peu découragé, un peu perturbé, un peu à lutter avec toutes sortes de combats, ou avec toutes sortes de déceptions qu'il peut y avoir dans sa vie, ou peu importe, on traverse toutes sortes de périodes, et de simplement lui démontrer notre amour va faire toute la différence dans sa vie. Il y a beaucoup de gens, moi, au tournant de ma vie chrétienne, qui ont manifesté cet amour-là, qui ont pris un temps pour s'arrêter puis partager des choses avec moi. Pris un temps pour s'arrêter, pour m'écouter, pour m'encourager, pour m'exhorter. Et comment ça fait du bien de sentir l'amour d'un frère ou d'une sœur. Alors, on doit absolument manifester cet amour parce qu'on est un disciple. On veut être un disciple, donc le disciple s'identifie dans l'amour et pas en parole et avec la langue, mais en action et vérité. L'entraide. Oh, ça me rappelle une petite histoire. Hein? C'est le jeune homme qui arrive, puis il va voir son père. Vous le connaissez, je suis sûr que plusieurs d'entre vous la connaissent. Et puis là, il va voir son père, il dit, « Hey, père, j'ai des projets. J'ai des choses à m'acheter. » Puis il commence à énumérer des choses qu'il aimerait avoir. Puis là, il dit à son père, « Juste un petit problème. » C'est qu'il manque à peu près comme 50 $. Hein? Il dit, « Qu'est-ce que je peux faire dans une situation comme ça? » Son père, il dit, « On s'en passe. » C'est parfait, père, passe-moi d'autres 50 $. Alors, c'est ça, il avait compris. Hein? C'est quoi l'entraide? En action et en vérité. Et oui, la Bible nous enseigne à s'aimer les uns les autres. Le général Booth, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, celui qui était le fondateur de l'armée du salut, qui est aujourd'hui plus armée que salut peut-être, mais enfin, il y avait une devise, cet homme-là, dans sa vie. Et il y avait une vraie devise, et pour lui, c'était les autres. C'était les autres d'abord. Et c'est comme ça qu'il a mis sur pied le mouvement qu'on connaît, l'armée du salut, parce que c'était les autres. C'était pas lui. C'était la priorité, c'était les autres. Et lors du dernier congrès, un des derniers congrès où il était encore vivant, les gens voulaient absolument qu'il assiste à ce congrès-là. Malheureusement, il n'avait pas pu assister à partir de la salle, mais à l'hôtel où ils étaient installés, il était installé, lui, dans une chambre avec un circuit fermé, avec la TV, où il pouvait voir ce qui se passait. Et les gens lui ont demandé, « Pouvez-vous nous livrer un message? Livrez-nous un message. On aimerait avoir un message d'encouragement de votre part. » Et comme il était gravement malade, l'homme, la seule parole qu'il a pu dire, c'était « Les autres. » C'est tout. Et c'est tout. Et c'est ça. Les autres. Donc, l'amour fait en sorte qu'on arrive à oublier ce qu'on est, à oublier nos propres choses et à voir les autres au travers de cela. Alors, merci, M. l'abbé, merci, Christina, pour les partages que vous avez faits tout à l'heure, parce que c'est ça. Les autres, de prier pour les autres, hein, de soutenir dans l'amour. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, il dit, « De quelle façon nous devons nous aimer en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu? » Verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Un ardent amour. Pas juste s'aimer, mais s'aimer ardemment. Proverbes, chapitre 10, verset 12, à peu près dans le même ordre d'idée. Proverbes, chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ça a un pouvoir incroyable, l'amour, n'est-ce pas? Donc, un disciple doit absolument s'identifier dans l'amour. Il doit alimenter cet amour-là. Il doit entretenir cet amour-là dans sa vie, absolument. Éphésiens, chapitre 4, verset 30 à 32. Un autre passage qui nous parle sur l'amour, l'importance de l'amour. Et la manière dans laquelle, comment nous devons marcher, à partir du chapitre 4, verset 30, et on va lire jusqu'au chapitre 5, verset 2. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. La plus belle preuve d'amour, je pense qu'elle passe au travers du pardon. Arriver à pardonner à quelqu'un. Arriver à passer par-dessus une faute qu'un frère, une sœur a pu nous faire, des fois sans même s'en rendre compte, ou des fois, ça peut être intentionnel, mais bon, il arrive des situations d'arriver à pardonner. Il n'y a pas de plus grand amour que d'arriver à pardonner ces choses-là. Rappelez-vous ce que l'apôtre, ce que Pierre avait demandé à Jésus, il dit, « Hey Seigneur, combien de fois que je dois pardonner à mon frère s'il me fait une offense, puis s'il me blesse, là. Vous savez, Pierre était comme assez prompt, comme assez... la mèche était courte, comme on dit, hein? Prêt à pardonner une fois, deux fois, peut-être trois fois. Gros max. Puis il fallait que je sois de bonne humeur. Non, non. Alors le Seigneur lui dit quoi? Ah, il dit... Ah ouais, puis là, il dit... il y en a mis, là. Jusqu'à sept fois? Puis il trouvait que c'était beaucoup, lui, là, sept fois. Puis je pense qu'il avait raison. Et le Seigneur lui a dit, non, non, 70 fois, ce sept fois-là. En un mot, c'est comme le Seigneur lui a dit tout le temps, là. 490 fois pour Pierre, c'était comme, wow, ça va pas, on a un problème. Il va-tu m'insulter 490 fois dans une journée, lui, là? Puis je m'en ai pardonné, moi, rien que faire ça. J'y pardonne, tiens. Fais-moi ce que tu voudras, hein? C'est à peu près ça. Alors, voyez-vous, l'importance, mais le pardon, l'amour, passe au travers du pardon. On a un bel exemple dans Matthieu, on n'ira pas nécessairement le lire, mais c'est celui du serviteur qui est allé voir le maître, puis qui devait de l'argent, hein, puis une dette, puis qui s'est mis à genoux, puis s'est mis à supplier, puis blablabla, puis bon, puis le maître lui a remis parce que, bon, il a fait de grâce, il a eu compassion pour lui, et puis en sortant, le même serviteur rencontre quelqu'un qui lui doit une poignée de monnaie, puis il saute dessus, puis blablabla, il fait mettre en prison, et le Seigneur lui donne un avertissement. Ça, on va le voir, par exemple. Verset 35, Matthieu 18, verset 35, c'est assez impressionnant. Quelle est la réponse du Seigneur là-dessus? Il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Alors, chers frères et sœurs, un disciple s'identifie dans l'amour. Jean, chapitre 15, pour terminer sur ce sujet, verset 9, Jean 15, verset 9. Jusqu'au verset 11. Et ce matin, là, j'écoutais Serge, puis il tournait autour des passages que je voulais prendre à soir. Puis je me disais, hey, mes amis, ils passent proche. Hein? Ils touchaient des versets, puis j'arrive juste à côté. Puis j'avais chaud. Il ne faut pas qu'il arrive avec les mêmes points. D'ailleurs, il est arrivé avec quelque chose, vous allez voir tantôt, la même affaire. Il n'y a pas, d'erreur, hein? Il n'y a pas de hasard. Hein? Voilà. OK, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, Jésus a dit. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Demeurons dans son amour. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Si je demeure dans son amour, je vais vraiment avoir un trait de caractère d'un disciple, comme il va avoir. Et je vais être vraiment en mesure de le suivre. Un cinquième trait de caractère que je voudrais apporter avec vous ce soir, dans Jean, chapitre 15, on est là déjà. Et on va lire les huit premiers versets. Un disciple, c'est un porteur de fruits. Alors, un disciple, c'est un porteur de fruits. Ça porte des fruits. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il le jette dehors, comme le sarment, il y sèche, puis on le ramasse. » Et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Donc, un disciple, c'est un porteur de fruits. Le Seigneur nous a équipés pour être capables de porter du fruit. On a la capacité de porter du fruit, le fruit de Dieu, les fruits célestes, les fruits qu'il veut nous faire porter. Les bénédictions qu'il veut nous donner au travers de notre vie spirituelle. Le verset 5, selon moi, est le verset clé de ce passage-là, où il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Croyez-moi, c'est officiel, un croyant qui demeure attaché à son maître porte du fruit, toutes sortes de fruits. Et ces fruits-là, on les remarque, on les voit, ils se manifestent, ça se voit à l'œil nu. Et on a juste à regarder dans Galates chapitre 5, à commencer par les fruits, le fruit de l'Esprit. Il nous dit dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Galates 5, 22, « C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. » Je travaille encore, je veux le dire avec ma femme le dise. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont les fruits de l'Esprit. La Bible dit, un disciple, c'est un porteur de fruits. Et les gens vont nous reconnaître. Et c'est comme ça que le Père va être glorifié, parce qu'on va porter du fruit, des fruits que lui nous a donné de porter. Le Seigneur nous a choisis. Il nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Jean, chapitre 15, verset 16. Désolé de vous faire tourner à gauche et à droite, mais je crois que c'est important d'aller voir les versets et de voir l'Écriture, les Écritures, parce que c'est la parole de Dieu qui doit nous convaincre ce soir. Et dans le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » C'est le plan de Dieu. C'est sa volonté pour nous. C'est exactement ce qu'il veut. Il nous a choisis pour qu'on porte du fruit. Et que votre fruit demeure. Des fruits qui demeurent, des fruits en permanent. Des fruits qui vont demeurer. Des fruits qui vont être manifestés. Des fruits qu'on va manifester jusque dans l'éternité. Et que le Seigneur va voir ces fruits-là et qu'il va... On va avoir des couronnes rattachées à ces fruits-là. De la productivité, n'est-ce pas? Des fruits qui demeurent. Le Seigneur m'a fait porter des fruits, pas n'importe quelle sorte de fruits. Pas mes propres fruits, mais les fruits de lui, les fruits de l'Esprit, les fruits qui viennent de l'Éternel, les fruits qui se manifestent et des fruits qui sont là pour être une bénédiction aussi pour les autres. Donc, un disciple, c'est un porteur de fruits. Romains, chapitre 7. Quand Jésus a dit à Pierre, « Que t'importe, Pierre, toi, suis-moi. Je vais faire de toi un disciple. » Et puis après, tu vas être en mesure, toi, d'aller faire des disciples et de leur enseigner tout le conseil de la parole de Dieu. Un disciple, c'est un porteur de fruits. Romains, chapitre 4, verset 1. Ignorez-vous, frères? 7-1. J'avais dit 4? Oui, on va lire 4 aussi au travers. Désolé. Alors, je voulais juste voir si vous écoutiez. OK, partir du verset 1, d'abord. Là, c'est clair. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la foi à son par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Aussi. Mais le texte dit par la loi. Aussi. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et de pourquoi il a amené ça, c'est qu'au verset 4, il nous explique maintenant la relation spirituelle entre le croyant et son maître. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apporteniez un autre à celui qui est ressuscité des morts, Jésus-Christ, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Et le verset 5, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Voyez-vous le parallèle qu'il fait entre les deux? Alors, tant son temps que l'épouse, son mari n'est pas mort, hein, et qu'elle devient l'épouse d'un autre, elle sera appelée adultère. Parce qu'il faut qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y ait une mort pour délivrer la personne, pour enlever sur la personne cette indication-là. Mais la même chose pour le chrétien. On est mort à notre propre vie, et c'est exactement ce que les candidats dans le baptême manifestent, visiblement, lorsqu'ils entrent dans l'eau et qu'ils ressortent. Hein? Ce n'est pas juste pour les nettoyer, enlever la poussière. C'est pas ça. Hein? On ne lui donne pas de shampoing non plus. Mais c'est pour illustrer très, très bien leur mort avec Christ et leur résurrection dans la nouvelle vie. Et si ce n'est pas fait dans notre cœur, comme converti, est-ce qu'on peut porter des fruits spirituels de Dieu, des fruits qui demeurent? Non. Oui, on peut porter des fruits. Oui, parce qu'il dit ici, à la fin du verset 5. Mais est-ce que c'est des bons fruits? Non. C'est des fruits pour la mort. Donc, c'est des fruits charnels, des mauvais fruits. OK? Comprenons, un disciple, c'est un porteur de fruits. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Porter du fruit permanent, du fruit qui demeure. C'est exactement la volonté de Dieu à notre égard qu'un disciple puisse porter du fruit. Puis on ne peut pas porter de fruit par nous-mêmes, à moins de rester attaché à Jésus-Christ, à moins de demeurer en lui, que ses paroles demeurent en nous, comme un vrai disciple. Finalement, sixièmement, je devrais dire, finalement, un disciple, c'est avant tout un chrétien. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est un chrétien, un disciple. Tu ne peux pas être un disciple si tu n'es pas chrétien. Mais je ne dis pas un croyant ici, là. Je dis un chrétien. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans 1 Pierre, chapitre 4, êtes-vous fier d'être chrétien? Un Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Parce que si tu as commis un meurtre, tu te mets en prison à vie, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas te plaindre de ton sort, tu l'as mérité, c'est ça que ça dit. Comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires des autres, que personne d'entre vous ne souffre. Mais, verset 16, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Et je ne veux pas parler ici de qu'un disciple, c'est avant tout un chrétien dans ce sens que en tant que position, mais c'est en tant que relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Vous savez, un chrétien, à l'époque où les premiers croyants ont été appelés chrétiens, c'était des mots d'insulte, c'était des injures. Et ceux qui étaient identifiés comme chrétiens risquaient de mourir, risquaient d'être donnés en pâture au lion. Hein? Ils ont dû souffrir beaucoup, ils ont dû payer cher le fait qu'ils s'étaient identifiés comme chrétiens. Hein? Et aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Tout le monde dit, on est chrétien. Pas vrai, là. Comprenez-vous? C'est pas ça, un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Puis pour être un chrétien, puis qui appartient à Jésus-Christ, puis s'identifier comme un chrétien, vraiment un chrétien, laissez-moi vous dire, il faut être un disciple du Seigneur. C'est juste les disciples qui s'identifient comme chrétiens dans le Nouveau Testament. Juste ça. Hein? Ceux qui étaient prêts à aller jusqu'au bout, ceux qui étaient prêts à souffrir pour leur maître, ceux qui étaient prêts à subir les pires injures, à être traînés partout, et puis à être lapidés ou quoi que ce soit, parce qu'ils étaient chrétiens, ils ont payé le prix de leur vie. Un disciple est avant tout un chrétien. Rappelez-vous la risée que le roi Agrippa a fait, la remarque désobligeante qu'il avait faite à Paul quand il a dit « Es-tu en train d'essayer de me convaincre de devenir chrétien? » C'était comme dégradant, c'était comme... Mais aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. L'Église catholique, les gens se disent « Hey, oui, des chrétiens. » Pas du tout. Pas du tout. C'est le monde à l'envers. Moi, je suis fier d'être chrétien, vous autres. Oui, il faut être fier d'être chrétien. Comprenez-vous? Il ne faut pas avoir honte d'être des chrétiens bibliques, non. Des chrétiens exactement comme la Bible les mentionne. Savez-vous pourquoi que je suis fier d'être un chrétien? Parce que je vais vous donner 8 bonnes raisons pour lesquelles je suis fier d'être un chrétien. Normalement, vers 10h15, je devrais terminer. Et 10, ça va bien? Non, non. Avec chacune des lettres du mot « chrétien », je vais vous donner une définition de qu'est-ce qu'un chrétien. Avec le « C » du chrétien, j'aurais dû m'emmener un PowerPoint, mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas rendu aussi techno. Hein? Je me contente de mes notes. Puis contentez-vous à prendre des notes. Alors, avec le « C » du mot « chrétien », tout d'abord, un chrétien, c'est un converti. Amen! Yes, sir! Matthieu, chapitre 18. Ah là, je vais avoir besoin d'aide. Mais attends un peu, là, je ne dirai pas tout ça. Qui veut lire Matthieu 18, 3? Qui? Claude va lire, OK. Matthieu 18, 3, Claude. Qui va lire 2 Corinthiens 3, 16? Serge. As-tu amené ta Bible ou tu veux-tu la mienne, Claude? Matthieu, chapitre 18, verset 3. Vas-y. Alors voilà. Un chrétien, c'est tout d'abord un converti. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Et voilà. Lorsque les cœurs se convertissent, OK, avec la lettre H, je me suis dit, c'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est heureux. Heureux. J'ai encore besoin de gens pour lire. Christina va lire Romains, chapitre 4. Là, je suis en train de désigner. Hein? Ça. Romains, chapitre 4, versets 7 et 8. Qui veut lire Apocalypse 26? André? Alors, Christina, c'est toi que tu as trouvé. Un chrétien, c'est un heureux parce que ses péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on peut être malheureux? Des fois, ça arrive qu'on est malheureux, mais on n'a pas de raison de l'être. OK, on continue. André. Hey, un chrétien, c'est quelqu'un qui est heureux pour des bonnes raisons d'être heureux, n'est-ce pas? Avec la lettre R, racheté. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est racheté. 1 Pierre 1, 18 et 19. Involontaire? Oui, M. l'abbé? 1 Pierre 1, 18 et 19. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 pour Rénal. Oui, 1 Corinthiens 6, 19 et 20. C'est Rénal qui va lire ça. Tite 2, 14. Qui veut le lire? Ce coin-là, oh, ici, Paul. Alors, un chrétien, c'est un racheté. 1 Pierre 1, 18, 19. Vous avez été racheté. Un chrétien, c'est un racheté. En Corinthiens 6, Renan. Et voilà. On est devenu chrétien parce que le Seigneur nous a racheté un grand prix. Un prix inestimable. Soyons fiers d'être chrétiens. Hein? Soyons fiers. Titre 2,14, Paul.
Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour toute bonne œuvre.
Voilà. Racheté. Avec la quatrième lettre, le « et ». Étranger. Un chrétien, c'est un étranger. Un étrange aussi, des fois. Hein? Les gens nous trouvent étranges, mais c'est surtout dans le sens d'être étranger. Hein? 1 Pierre 2, 11. Qui veut lire ça? Oui. Jean 5, oui, tout de suite. 1 Pierre 2, 11. Donc, un chrétien, c'est un étranger. Un chrétien, c'est vraiment un étranger. On est ici comme de passage. Ce n'est pas notre demeure ici. On ne doit pas rien bâtir pour permanent ici. Là. Les fruits qu'on a lus tout à l'heure, les fruits qui demeurent, ce n'est pas des fruits qui vont demeurer ici non plus. Là. C'est des fruits qui vont demeurer éternellement. Donc, on est des étrangers avec la lettre T. Ah, oh, Serge, je n'en parlais un matin. Serge, je te laisse deviner. T. Tu as parlé de ça un matin. Tu t'en rappelles pas? Un transformé. Un transformé. 2 Corinthiens 3, 18. Ah, peut-être que Hugues peut lire ça, tiens. 2 Corinthiens 3, 18. Un autre qui a pas mis sa Bible. Non, non. Des farces. Des jokes. Oui, 2 Corinthiens 3, 18. Un transformé. Et nous sommes comment? Un chrétien est une personne améliorée. Un petit peu plus chaînée. Tu y mets une cravate, un habit, il coupe les cheveux. C'est un chrétien. Mormon. C'est un mormon. C'est à peu près ça. Alors, c'est pas ça. C'est un transformé où? Dans le cœur. Et s'il est transformé dans le cœur, il va-tu se transformer ailleurs? Oui. Si vous m'auriez vu avant, vous avez vu que vous comprendriez c'est quoi être transformé. Je vous assure. Mes parents, en tout cas, c'est ce qui a touché le cœur de mes parents. Mon père et ma mère, c'est un peu à cause de cela que ça les a amenés à accepter le Seigneur et être sauvés à leur tour parce qu'ils avaient vu une transformation. Puis mon père, qui était assez comique, il disait à maman, « C'est où qu'il va pour être transformé comme ça? » C'est quoi qui a passé? Hein? C'est... Puis là, il ne voulait pas s'assassiner avec moi parce qu'il disait à maman, « J'aime autant le voir de même qu'avant. » Statu quo. On le laisse faire, puis tout ce qu'il nous dit, on l'écoute. Oui, oui. Fait que je pouvais les évangéliser, puis il disait, « Oui, oui. » Merci, Nabo. Parce qu'il aimait la transformation. Mais c'est ça, la transformation du cœur, hein, ça manifeste des choses. Avec le « i », sixième lettre du mot chrétien, « intelligent ». Oh, il ne faut pas être prétentieux, là. C'est pas ça dans le sens de ce que vous pensez, là. « Intelligent ». 1 Jean, chapitre 5, verset 20. En prenez un autre. David, je le regardais, c'était comme lui, hein? David Chouinard. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Un chrétien, c'est un intelligent.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et l'intelligence.
L'intelligence, parce qu'il nous a donné la connaissance de Dieu. On peut connaître les mystères de Dieu. On peut connaître la volonté de Dieu, on peut connaître les choses que personne ne peut connaître. Savez-vous ça? Vous connaissez des choses que les gens du dehors, non sauvés, ne peuvent pas en tout imaginer. C'est cette intelligence-là qu'il nous a donnée. Hein? Ce n'est pas l'intelligence comme vous pensiez, là. Hein? Avec le E, septième lettre, un envoyé. Nous sommes un envoyé. Envoyé, là, dit le E. Hein? Oui, j'ai besoin encore des gens pour lire. Acte chapitre 13, verset 4. Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore lu. Hein? Il doit en rester. Quels sont ceux qui n'ont pas lu? Levez la main. Tous ceux qui n'ont pas lu. Levez la main bien haut, tout le monde. Qui n'ont pas lu, levez la main bien haut. Ah, vous êtes encore un bon nombre. Richard, je t'ai choisi. Acte 13, verset 4. Richard, toi. Vous êtes le seul, Richard. Non. Non, Richard, j'ai un gros. Oui. Exactement. Ils ont été envoyés. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Quelqu'un d'autre? 2 Corinthiens, 5, 20. Oui, Daniel? Exactement. On est des envoyés, on est des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé d'un pays. On est envoyé. Hein? On est envoyé pour une mission, pour aller dire des choses. C'est ça, un chrétien. Et finalement, la dernière lettre du mot chrétien, le N, une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je vais le lire. Si quelqu'un est en Christ, on connaît ce verset-là par cœur, il est une nouvelle création ou nouvelle créature. Ça m'en a des traductions. Les choses anciennes ont passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien, donc, c'est un converti. C'est quelqu'un qui est heureux, un racheté, un étranger, un transformé, qui a l'intelligence, qui est envoyé, qui est une nouvelle créature, une nouvelle création. Suis-je un disciple du Seigneur? Rappelons-nous comment le Seigneur veut qu'on soit. Rappelons-nous ces traits de caractère-là qu'on vient de voir ce soir. Et je vous laisse avec une dernière pensée qui résume un peu l'ensemble des deux dimanches soirs. Donc, je vais vous lire cette pensée. Un cœur aimant, ta volonté, vrai, droit, prêt à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. C'est ça, un vrai disciple de Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur nous appelle, il nous dit, « Que t'importe, toi, suis-moi. » C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Prions. Merci, Seigneur, pour le temps que tu nous as donné encore ce soir. Merci pour ta merveilleuse parole, qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, tu nous parles. Elle nous enseigne. Elle nous garde, Seigneur, dans la vérité. Elle garde nos cœurs, elle réchauffe nos cœurs, afin que nous puissions vivre pour toi et que nous puissions nous identifier à toi, Seigneur, et que nous puissions vraiment être des disciples, les disciples que tu recherches. Fais cette œuvre dans nos vies, Seigneur. Forme-nous à être des bons disciples pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci.